La Grande Table se réunit aujourd'hui pour un hommage à l'une des grandes figures de la littérature du siècle et à son œuvre. Toni Morrison nous a quittés et ses mots résonnent autour de nous, parmi les fantômes, parmi ses fantômes, ce qu'elle nous a donné à lire et à apprivoiser. La langue, c'est la paume de la main qui doit tenir le monde, disait-elle. Toni Morrison a tenu la sienne bien serrée, y gardant la mémoire des oubliés de l'histoire américaine. Une paume levée bien haut jusqu'au prix Nobel de littérature, décerné pour la première fois à une afro-américaine. Une paume qui recèle une langue arrachée qu'elle s'était chinée à restituer jusqu'à son dernier son. Toni Morrison a écrit ce que d'autres avaient commencé à chanter, un passé dont les relents planent encore sur l'Amérique d'aujourd'hui, que son œuvre continuera sans fin d'exorciser. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été. Maëlys Bessery.
Bonjour Christine Laferrière, vous êtes l'une des traductrices de l'œuvre de Toni Morrison, notamment de Home et de Délivrance. En face de vous, il y a Claudine Reynaud. Bonjour, vous êtes professeure à l'université Paul-Valéry Montpellier III et auteure de Toni Morrison, l'esthétique de la survie. Et à vos côtés, Annie-Paul Miel de Prinsac. Bonjour à vous aussi. Vous êtes docteur en littérature et auteur de L'un à l'autre, l'identité dans les romans de Toni Morrison. Alors toutes les trois, merci d'avoir accepté de venir en parler et peut-être parler avant tout, au-delà de sa biographie, du projet littéraire, du projet de l'œuvre. Alors, que diriez-vous, Claudine Reynaud, justement, de ce principe de départ, puisqu'elle ne souhaitait pas être limitée à la vision afro-américaine et qu'en même temps, elle porte cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du projet d'écriture de Toni Morrison ?
Alors, le premier projet d'écriture, c'est le fait qu'elle a souligné les romans qu'elle voulait lire n'existaient pas. Donc c'est en fait pour ce livre qu'elle a écrit le premier roman qui est L'œil le plus bleu. Alors le projet, c'est, je pense, c'est construit au fur et à mesure, disons, l'étiquette de littérature noire américaine est assez gênante d'une certaine façon, d'autant plus qu'elle a eu le prix Nobel et que elle est maintenant considérée comme un des plus grands écrivains contemporains.
Alors, si on ne sait pas ce que ça recouvre. Alors, voilà, afro-américaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est toute la question de son œuvre, Annie-Paul Miel de Prinsac. Est-ce que ça veut dire que ce sont les thématiques, la culture que l'on retrouve dans ses œuvres? Est-ce que, et elle l'a beaucoup reproché à la critique, est-ce que c'est parce que c'est l'auteur lui-même qui est afro-américain?
Je suis d'accord avec ma collègue sur le fait que c'est un écrivain parmi les plus grands, c'est ce qu'elle désirait depuis le début, elle l'a toujours dit. Bon, il est évident qu'elle est afro-américaine et que très vite on l'a plus ou moins mise dans un rôle. C'est-à-dire qu'elle a commencé à écrire, bien entendu, les romans qui n'étaient pas écrits dans sa communauté, mais très vite elle a compris que une vision binaire du monde et une vision dans laquelle les Noirs n'existaient que si les Blancs n'existaient pas ou vice-versa n'avait aucun sens. Je crois son projet a toujours été d'écrire les mots, le langage, c'est vraiment ce qui lui importe. Et je crois qu'aujourd'hui, elle écrit, elle laisse un message, elle est même une prophétesse du 21e siècle, j'oserais dire, pour tout le monde.
Alors en même temps, cette question, elle est complexe. D'ailleurs, on s'y confronte aussi quand on s'approche de sa langue. Christine Laferrière, il y a à la fois l'inspiration, au-delà de l'inspiration, ce récit qu'elle prend à sa charge, ce récit d'un passé oublié, refoulé, peu raconté ou mal raconté par l'histoire américaine officielle, et en même temps ce désir d'aller au-delà des assignations. C'est peut-être le projet ultime de se détacher de cette assignation-là.
Oui, parce qu'en effet, elle a posé la question parfois dans des conférences qu'elle a faites, qui est la question suivante. Qu'est-ce qui, en dehors de la mélanine et du sujet, fait de moi un écrivain noir? Et il est vrai qu'elle a commencé à écrire à la fin des années 60 et elle citait aussi parfois donc des écrivains noirs précédents comme James Baldwin ou bien Ralph Ellison. Et elle disait, quand Ralph Ellison écrit « Je suis l'homme invisible », ou quand James Baldwin dit, par exemple, « Je ne suis pas ton nègre », en fait, il s'adresse aux Blancs. Autrement dit, ils écrivent pour les Noirs ou contre les Blancs. Et elle, elle voulait être lue absolument par tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle a tenté, dans la langue et dans les thèmes, d'ailleurs, de doter le caractère raciste du regard, à savoir qu'elle voulait se défaire de ce qu'elle appelait le regard blanc. Et effectivement, par rapport à l'histoire, elle fait énormément de recherches. Moi, je voudrais aussi insister là-dessus, c'est que Toni Morrison a écrit une douzaine de romans, ce qui est énorme quand on pense qu'elle a commencé à écrire à l'approche de la quarantaine, en vérité. Mais certains vous diront que ça n'est pas beaucoup. Et quand on voit, en fait, le volume des romans et la précision de tout ce qu'elle indique, il faut savoir qu'elle a fait énormément de recherches.
Alors, ces recherches, elles arrivent dès le départ, d'ailleurs. C'est dès son travail d'éditeur chez Random House, quand elle commence à publier The Black Book, justement, l'anthologie de textes d'auteurs afro-américains. Alors là, pour le coup, ce sont des textes très divers, hein, puisqu'il y a des documents d'archives, il y a des choses extrêmement différentes, Claudine Reynaud, mais il y a cette recherche-là très importante.
Oui, le rapport à l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est dans les années 70, c'est le moment du Black Power, de Black is Beautiful, et elle, quelque part, elle s'élève contre une histoire qui serait une histoire imaginaire, qui est celle de ce moment-là, et qui est celle des nationalistes noirs. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'elle préfère l'histoire du vécu. Hein? Donc elle va aller vers les récits d'esclaves.
Alors c'est peut-être la confrontation entre l'histoire et la mémoire. Vous dites, elle s'érige contre ce récit unique, récit unique.
Et peut-être même fantasmé, hein, d'origine africaine qui ne serait pas basée sur du témoignage, de l'archive. Et donc The Black Book n'est pas tant une anthologie de textes écrits par des Noirs américains qu'un, j'appellerais cela plutôt un livre herbier. C'est-à-dire qu'elle a dit, on va regarder dans les greniers des Noirs américains ce qu'il y a.
C'est un travail d'archive qu'elle fait.
Exactement, oui. Le mot archive, le mot archéologie est essentiel pour comprendre le travail de Toni Morrison, qui entre en résonance d'ailleurs avec une époque où justement la réflexion sur l'histoire est une réflexion sur l'archive, en philosophie aussi. Bon, Derrida a écrit ensuite Le mal d'archive. Donc elle est absolument quelqu'un qui rentre en écho, si vous voulez, avec des préoccupations histoire, mémoire, archive, vécu, témoignage.
Alors ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut insister, Annie-Paul Miel de Prinsac, qui a la prise en charge du passé, qui n'est pas nécessairement un travail d'historienne, loin de là, puisqu'il ne faut pas oublier la dimension esthétique, littéraire et artistique de Toni Morrison. Et sa prise en charge du passé, c'est justement les histoires, au sens pluriel et littéraire, les histoires individuelles, les histoires racontées.
Bien sûr, bien sûr.
C'est sa forme.
C'est-à-dire que, bon, elle, la prise en charge d'un passé qui était au départ qui non dit, indicible, puisqu'elle elle raconte, elle part avec cette idée, dans Beloved notamment, de raconter une histoire qui n'a jamais été racontée et dont on ne sait pas grand-chose, sauf précisément les outils, les instruments de torture et les marques sur les corps.
Alors racontez-nous justement cette histoire, parce que cette histoire, elle émane justement des recherches au moment de la publication du Black Book et de l'histoire qu'elle découvre, qui est une histoire vraie, le discours de Margaret Garner. Et finalement, cette histoire de Margaret Garner, ça va être une manière à elle de reprendre, pour Toni Morrison, les récits qu'on connaissait sous une autre forme, qui étaient les slave narratives, les récits d'esclaves.
Oui, elle reprend certainement les récits d'esclaves
qu'elle se réapproprie,
qu'elle réécrit avec qu'elle part de son imagination. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est revisitée, qui est pratiquement recréée de toutes pièces dans la mesure où elle n'a jamais été écrite. Donc c'est l'histoire des perdants par principe n'est jamais écrite. Donc Morrison inaugure une nouvelle vision de l'histoire, effectivement, qui n'est plus une histoire d'archives que l'on trouve dans les bibliothèques, mais une histoire du peuple. Qui raconte ce qui lui est arrivé.
Et qui est une histoire vivante, Christine Laferrière.
Oui.
C'est la première chose à laquelle on se confronte quand on lit les textes de Toni Morrison. C'est cette écriture extrêmement vivante, extrêmement immersive, où justement, elle donne vie à tout, y compris les objets, y compris le monde végétal, y compris la nature.
Oui, ça relève, je pense, d'une entreprise qui démontre aussi toute la complexité du texte. C'est-à-dire que pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'histoire, elle s'est très très souvent confrontée au fait que l'histoire avait été écrite en quelque sorte par les maîtres, et elle se demandait aussi comment il était possible que la présence africaine ou afro-américaine, qu'elle appelait africaniste, à savoir d'origine africaine, soit de façon criante, absente de toute la littérature. À l'époque où la littérature de la Jeune Amérique commençait à s'écrire, et elle se demande parfois aussi quelle contorsion l'esprit a dû faire pour éviter à tout prix, jusqu'à Mark Twain, donc d'en arriver là. Et quelque chose de très important dans sa conception, sa lecture et sa nouvelle lecture des récits d'esclaves, c'est qu'elle dit, comme ces récits visaient à montrer que les esclaves étaient humains par leur capacité d'écrire, parce qu'il s'agissait d'autobiographies validées en quelque sorte par une préface d'un abolitionniste. Il fallait montrer que le travail d'édition avait eu lieu et qu'il avait été quasi nul parce que les esclaves étaient capables de lire et d'écrire, et donc de ce fait même qu'ils étaient humains. Et elle montre que tous les incidents un peu trop violents ou graveleux étaient juste évoqué, jamais creusé, pour ne pas choquer le lecteur blanc. Donc il y avait quand même un certain respect des codes d'une fiction accessible, on va dire, à tous les esprits, même sensibles. Et elle dit aussi, personne ne parle du vécu, de la façon dont ces gens-là ont ressenti les choses.
Alors ça, elle, c'est ce qu'elle fait avec l'oralité de son récit. Peut-être on va en écouter un extrait de Home. Alors excusez-nous, non traduit cet extrait-là, juste pour avoir le plaisir d'entendre sa voix.
Lotus, Georgia. Is the worst place in the world, worse than any battlefield. At least on the field, there is a goal, excitement, daring, and some chance of winning, along with many chances of losing. Death is a sure thing, but life is just as certain. Problem is, you can't know in advance. In Lotus, you did know in advance, since there was no future, just long stretches of killing time.
Christine Laferrière, derrière l'émotion d'entendre cette voix magnifique. Elle a beaucoup lu d'ailleurs ses propres textes. Elle n'était pas tellement contente des livres audio qui avaient été faits. Hein. Donc elle a repris un certain nombre de lectures de ses propres livres, Toni Morrison. Et là, ce passage de Home, c'est le personnage principal qui se souvient de sa maison de Lotus en Géorgie. Peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots.
Oui, alors c'est un lieu tout à fait particulier parce que c'est un homme qui est parti pour fuir des choses, qui revient dans des circonstances catastrophiques et assez mystérieuses. Et la façon dont cette maison en fait d'enfance est évoquée, avec tous les mauvais souvenirs qu'elle a et tous les souvenirs traumatiques, alors là aussi, qui sont parfois source de honte et qui font dire donc à ce personnage à la fin du roman qu'il ne doit pas essayer de couvrir sa honte sous celle des autres et inversement, donc est décrite de telle sorte qu'on se rend compte de toute l'importance du foyer. Alors le titre français est révélateur puisque c'est le titre anglais avec tout ce qu'il comporte, hein.
Parce qu'il n'est pas possible à traduire, le thème
pas possible
home.
À traduire, de même qu'il est toujours un petit peu difficile de traduire le verbe to belong to. Au départ c'est appartenir à, hein, là où est ma place, en anglais c'est là où j'appartiens, et le verbe appartenir pour nous est quand même extrêmement délicat puisque le rapport d'assujettissement dans l'esclavage est quand même un rapport d'appartenance. Donc il est vrai qu'il faut faire très attention. Mais ce à quoi je pensais aussi, c'est que de ce fait même, elle nous apprend à lire, parce que dans le retour à la mémoire et dans le retour à cette entreprise qui consiste à combler les vides en quelque sorte, laissée sciemment par les historiens et par les grands auteurs américains, si vous voulez, elle va faire appel à cette forme de mémoire qui est le récit oral pour l'essentiel de ces esclaves déracinés qui ne savent même pas de quel pays d'Afrique.
Alors celui de la mère, celui de la grand-mère, celui qu'elle a connu dans sa propre famille d'ailleurs, Annie-Paul Miel de Prinsac. Vous dites, Christine Laferrière, combler les trous de la mémoire, mais c'est aussi ce que vous appelez le refouler finalement. C'est encore autre chose.
Il y a le refoulé, et puis il y a, je pense qu'il y a, également dans la création littéraire une bonne part de recréation, d'imagination, c'est-à-dire
qui se glisse dans les interstices
de la mémoire. Exactement, parce que le refoulé ne suffit pas, à écrire une œuvre littéraire.
Claudine Reynaud, il y a cette idée finalement de retrouver dans l'écriture, et c'est là aussi peut-être le projet de Toni Morrison, de retrouver les mouvements. Alors les mouvements, c'est-à-dire la forme adopte le sujet. Là, on parle de la mémoire est présente partout, alors on va adopter les allers-retours de la mémoire, les allers-retours et ses temporalités multiples.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'elle elle ne fait pas de division entre forme et contenu. Le contenu, c'est la forme.
Mais tout s'adapte, voilà.
Oui, et puis elle va même donner des indices dans ses entretiens, notamment la spirale, par exemple, pour le livre de Soula, et pour la chanson de Salomon.
Expliquez-nous la spirale.
Alors, la spirale, c'est-à-dire qu'on on termine le récit, par exemple, avec un cri et des cercles de douleur. Et ces cercles de douleur, on ne sait pas trop où ils terminent, si vous voulez, s'il n'y a pas un genre d'œil au sein de ce cyclone de spirale. Pour l'œil le plus bleu, ce qui paraît assez évident, mais bon, c'est très clair quand elle le dit, c'est un miroir brisé. La structure de l'œil public est un miroir brisé. Pour la chanson de Salomon, c'est un train, elle dit, qui, au fur et à mesure que le récit avance, le train va prendre un peu plus de vitesse. Et je crois qu'on l'oublie quand on lit, parce que c'est un livre très complexe, très beau. Il va être au programme de l'agrégation d'anglais cette année. Et il est aussi fort, je dirais, que Beloved, d'une certaine façon. Et il est intéressant à lire parce qu'il va défaire certaines des idées qu'on a justement sur l'écriture de Toni Morrison, puisqu'il s'agit d'un livre hommage à son père, et que là, les récits sont aussi des récits d'hommes, des récits masculins. Et il donne aussi, je trouve, une clé qui est aussi une clé qui n'est pas souvent évoquée, puisqu'on parle beaucoup d'esclavage, de traumatisme, etc., qui est l'ironie, l'humour, qui est le décalage, le décrochement, alors vous me parlez du va-et-vient de la mémoire, c'est sûr, hein, il y a
dans
constamment...
ces mouvements, il y a, vous parliez justement des cercles, alors le miroir brisé qui revient dans plusieurs livres, hein, dans Beloved, l'un des fils aussi, le miroir s'est brisé au début avant qu'il parte. Il y a aussi, je pense à Jazz.
Ah oui.
Alors Jazz. Oui. Alors là, le fond, la forme, là, c'est peut-être.
C'est encore plus complexe. Mais elle s'en est expliquée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. Et là, je rejoins ce qui a été dit par la traductrice.
Christine Laferrière.
Voilà, Christine Laferrière. C'est-à-dire que, si vous voulez, la difficulté qu'elle a eue au départ, c'est qui allait la lire. Et elle l'a même dit elle-même. Même au départ, elle s'est sentie quasiment obligée, si vous voulez, de donner des explications, de faire venir à elle un lecteur, puisque elle partait, si vous voulez, ou elle part toujours, hein, d'ailleurs, du point de vue noir américain, de la culture noire américaine, des structures internes à l'art noir américain, toutes ses formes, hein, on va dire musique, sermon, tout le fond culturel.
Mais elle le réutilise, ça, Annie-Paul Miel-de-Prinsac, elle le réutilise. Quand on dit, bien sûr, on ne va pas la limiter à une assignation quelconque, mais elle se sert, d'ailleurs même, elle initie le lecteur à cette culture afro-américaine. Elle lui donne des portes d'entrée, ça devient un matériau.
Bien entendu, c'est-à-dire que pour elle, la culture afro-américaine, c'est une culture du monde qui vaut toutes les cultures. Donc, bien entendu, elle aura toujours cette position de phare de la communauté afro-américaine. Je veux dire, et puis peut-être de conscience des États-Unis, Toni Morrison, ce qui ne l'empêche pas de parler pour tout le monde, parce qu'elle a une écriture très complexe à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que chacun peut en tirer quelque chose de très utile.
Ça lui permet même de proposer un projet au lecteur qui est celui de s'imprégner de cette culture-là et d'accepter que les objets, les morts, les fantômes fassent partie du domaine du vivant, en tout cas qu'il n'y ait pas de frontière avec le reste de ces personnages.
Tout à fait, je pense, pour moi elle est très proche de la Renaissance, hein, je la compare souvent à Shakespeare personnellement, je pense que voilà, c'est un grand esprit, il y a une totalité, il n'y a pas, bon, Toni Morrison est fondamentalement elle est contre le politiquement correct, elle a toujours fait ce qu'elle voulait quand elle voulait. Je crois qu'elle déjoue systématiquement d'un roman à l'autre les espérances ou le jugement des journalistes ou des critiques. C'est-à-dire chaque fois elle remet l'ouvrage sur le métier et elle repart sur quelque chose de différent, ce qui fait que ses romans sont assez complexes parce que finalement ils sont tous construits un petit peu différemment. Peut-être moins les deux derniers, enfin je sais pas. Mais
Christine Laferrière, vous secouez la tête en forme de désaccord, peut-être?
Non, pas du tout, au contraire, non. D'accord. Je réfléchis et je déguste avant même de réfléchir ce qui se dit à côté de moi.
Alors, deux choses, d'un côté la structure, l'affiliation shakespearienne, de l'autre le foisonnement matériaux afro-américain, en tout cas la culture, l'utilisation du son. Peut-être qu'il faudrait que vous nous en parliez, vous, en tant que traductrice. Comment est-ce que vous avez été confrontée à cette langue?
Alors, en ce qui concerne les deux textes que j'ai traduits, qui donc sont relativement brefs et ont une structure alternée, alors pour ce qui est de Home, on a essentiellement une alternance quasiment parfaite jusqu'à la fin.
De la narration.
Voilà, de la narration. Pour ce qui est de Deliverance, il y a trois parties et c'est quand même autre chose parce qu'il y a une plus grande variété, on va dire, de narrateurs et parfois quelques narrateurs qui n'interviennent qu'une seule fois.
Petit mot d'abord pour expliquer l'histoire de Home.
Alors, l'histoire de Home, ça se passe donc dans les années 50. C'était le premier roman dans lequel elle aborde le 20e siècle, après la guerre. Hein. Voilà, c'est contemporain. Vous avez un soldat noir, donc qui a été...
Ce qui n'est jamais dit dans le texte.
Qui a été rendu à la vie civile. Alors, on ne sait pas très bien si c'est parce que c'est tout à fait la fin du conflit ou si c'est parce qu'il a été jugé inapte après avoir vécu des chocs.
Le conflit, c'est la guerre de Corée.
La guerre de Corée, voilà, excusez-moi de ne pas... qui se déroule de 1950 à 53, si ma mémoire est bonne. Et effectivement, jamais elle ne dit que donc Frank Money est noir, et on le comprend petit à petit au fil d'indices tels que, par exemple, attention, si vous prenez tel train, vous savez que vous ne pourrez pas vous asseoir au buffet.
À travers les interdits qu'il reste dans les années 50 et qui font écho au monde de l'esclavage qu'elle a pu décrire.
C'est ça, c'est-à-dire que
dans d'autres ouvrages précédents.
À partir du moment où la ségrégation se mettent en place, à la suite de l'abolition de l'esclavage, on voit quand même l'impossibilité de vivre normalement de façon flagrante, hein, qui était celle des Noirs. Et donc, il y a ce fameux Green Book, qui était l'ouvrage publié pour des Noirs dès les années 30, et qui indiquait, en fait, quels étaient les hôtels qui pouvaient les héberger, les restaurants où ils pourraient rentrer, éventuellement les institutions où on pourrait les soigner. Donc, on voit, au fil de ces interdictions et des remarques du personnage, c'est là qu'on comprend qu'il est noir, mais jamais il n'est dit un seul instant qu'il est noir.
Alors donc là, ça, c'est peut-être quelque chose à souligner, une petite parenthèse, Claudine Reynaud, c'est l'exercice justement littéraire qui petit à petit va s'affiner vers quelque chose de plus en plus universel et en même temps de plus en plus identitaire. C'est les deux mouvements en même temps dans l'écriture. Et c'est ce que permet peut-être l'écriture, c'est cette transcendance-là.
Alors, c'est évident que le racisme, entre guillemets, est au cœur de cette écriture. Et il faut lire tous ses ouvrages pour deux raisons, je dirais. La première raison, c'est qu'elle a eu, comme on l'a souligné, le désir de vouloir effacer du langage, puisque pour elle, le langage porte le racisme, et le racisme est porté par le langage. Donc elle dit, ma tâche en tant qu'écrivain est une tâche excessivement difficile, puisque je suis née dans un pays où ce langage est racisé, si vous voulez.
Donc racisé pour plusieurs raisons, peut-être il faut préciser. Là, elle, son exercice d'écrivain, ça a été d'enlever les adjectifs de couleur pour présenter ses personnages, mais aussi un pays dans lequel, elle l'a dit à plusieurs reprises, la langue a été imposée aux esclaves, la leur a été retirée, et où la réappropriation va être un marqueur fort.
Je pense que c'est plus loin que le marqueur, si vous voulez, noir et blanc, sur lequel elle a joué. Donc, dans Récitatif, qui est une nouvelle, par exemple, elle a essayé de, entre guillemets, perdre le lecteur, si vous voulez, par rapport aux assignations raciales et au blanc et au noir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le lecteur qui lit va chercher si vous voulez, qui est noir, qui est blanc dans cette nouvelle. Elle ne donne pas d'indication dont le lecteur est ramené, si vous voulez, par un retour sur lui-même à sa propre conscience et à ses propres stéréotypes raciaux slash, on dirait, racistes. C'est-à-dire que lire Toni Morrison est vraiment un exercice dans la déconstruction, si vous voulez, d'une pensée raciste, parce que c'est vraiment au-delà de la description, on va dire, physiologique, du marqueur, si vous voulez, physique, visible de la race. C'est le langage raciste dans l'idéologie raciste qu'il porte. Et ce qu'elle dit, c'est que c'est très difficile pour elle, notamment, de ne pas retomber, et ça c'est quelque chose qui a été dit par tous les écrivains noirs américains, la Renaissance d'Harlem aussi, c'est-à-dire comment fait-on pour décrire des noirs américains, sachant que l'on risque à tout moment de tomber dans un stéréotype racial.
Alors, donc, c'est s'attaquer aux idées vénéneuses qui véhiculent la langue, mais la question aussi est celle de la manière de le faire. Il y a un langage des sons. Peut-être qu'il faut parler de cette langue, Annie-Paul Miel-de-Prinsac, qu'on va réécouter un extrait par la suite. Parler de cette langue-là, qui est une langue qui s'inspire aussi d'une langue vernaculaire. Et en même temps, il y a ce travail autour du son et peut-être d'accéder par l'écriture, par la littérature, à d'autres espaces de réflexion.
Eh bien, écoutez, oui, enfin, sa langue est fondamentalement orale. Enfin, c'est une langue, elle écrit une langue orale. Et elle essaye de recréer, parce que c'est pas totalement la langue parlée peut-être dans la rue, mais à partir de la langue vernaculaire, elle crée une langue littéraire qui restera, indubitablement. Enfin, aujourd'hui, la
elle
langue,
crée même des bruits.
Elle est absolument. Il y a vraiment tout un. C'est encore très, très. Pour moi, c'est une. Enfin, je pense que d'une façon générale, les Afro-Américains sont très portés sur la rhétorique. Hein. Il y a un art de la parole, du chant, de que vous retrouvez dans le jazz, qui est absolument fondamental et qu'il développe beaucoup plus que nous. Et donc, c'est cette langue-là qu'elle va utiliser, qui est comme de la musique par moment. Hein. C'est certain. Je crois que moi, je disais parfois aux étudiants qui avaient du mal à comprendre, il faut lire à haute voix. Morrison se lit à haute voix, comme elle le fait elle-même.
Alors là, c'est la tradition aussi que l'on peut trouver chez d'autres grands auteurs anglais. Donc c'est une tradition finalement qui traverse plusieurs cultures. Elle fait la grande réunion entre deux types de littérature.
Absolument. Là, c'est là qu'elle rejoint encore une fois peut-être Shakespeare. C'est-à-dire qu'il y a une poésie auditive, orale, enfin qui est remarquable.
Alors vous dites poésie, mais Claudine Rénaud, elle ne voulait pas le mot poésie, Toni Morrison.
Non. Alors, non. Et même, oui, quand elle a reçu le prix Nobel, c'est ce qu'on avait souligné dans son œuvre, c'est-à-dire l'outil poétique, parce qu'elle dit toujours que son œuvre doit être belle et politique.
Donc, mais ça n'empêche pas.
Voilà, oui, mais elle avait peur, justement. C'est le problème des critiques, si vous voulez. Elle avait peur que, amenant, si vous voulez, l'appréciation de son œuvre du côté de l'esthétique, les critiques perdent de vue ce qui pour elle est essentiel, c'est la portée politique.
Donc c'est la peur encore de l'assignation, finalement, à travers ce terme poétique.
Oui.
Et de la catégorisation littéraire.
Oui, là, je relisais ce qu'elle a dit dans les années 80, un journaliste, qui était que les premiers critiques littéraires pour elle rater, si vous voulez, complètement son œuvre.
C'est pour ça qu'elle l'aura expliqué d'ailleurs.
C'est-à-dire que non, elle a dit qu'elle attendait. Elle attendait. Oui. Qu'elle a essayé d'expliquer ce qu'elle faisait. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure, si vous voulez, puisque son œuvre est devenue si puissante, était traduite. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un écrivain, comme l'a dit Annie-Paul, majeur. À ce moment-là, elle a eu moins besoin, puisque les lecteurs rentraient dans, si vous voulez, la culture qui était celle du matériau de base de l'écriture.
Alors Christine Laferrière, on va écouter un extrait de votre traduction, cette fois de Home, lu par Julien Rosa.
Mieux que la plupart, Frank savait qu'il n'était pas nécessaire d'être à l'extérieur pour qu'il y ait répression, légale ou illégale. Vous pouviez être à l'intérieur, vivre dans votre propre maison depuis des années, et des hommes avec ou sans insigne, mais toujours armés d'un pistolet, pouvaient tout de même vous forcer, vous, votre famille, vos voisins, à plier bagages et déménager, avec ou sans chaussures. 20 ans plus tôt, à l'âge de 4 ans, il en avait eu une paire, même si la semelle de l'une claquait à chaque pas. Les habitants de 15 maisons avaient reçu pour ordre d'abandonner leur petit quartier en bordure de la ville. 24 heures, leur avait-on dit. Autrement signifiant, vous mourrez. Comme les mises en garde étaient parvenues en tout début de matinée, le reste de la journée s'était réparti entre désarroi, colère et bagages. Vers le crépuscule, la plupart s'éloignaient, dans des véhicules s'ils en disposaient, sinon à pied. Pourtant, malgré les menaces proférées par des individus à la fois avec et sans cagoule, et malgré les supplications des voisins, un homme d'un certain âge dénommé Crawford était resté assis sur les marches de la galerie devant sa maison, refusant d'évacuer les lieux. Les coudes sur les genoux, mains croisées, il avait attendu toute la nuit en chiquant du tabac. Juste après l'aube, passé la 24e heure, il fut battu à mort, à coups de tuyaux et de crosses de fusil, puis ligoté au plus vieux magnolia du comté, celui qui poussait dans son propre jardin. Peut-être le fait même d'aimer cet arbre, dont il se vantait qu'il avait été planté par sa grand-mère, l'avait-il rendu si opiniâtre. Au cœur de la nuit, certains de ses voisins qui s'étaient enfuis revinrent en douce le détacher et l'enterrer au pied de son bien-aimé Magnolia. L'un des fossoyeurs dit à qui voulait l'entendre que M. Crawford avait eu les yeux arrachés.
Christine Laferrière, on se demande justement comment se fait ce travail de traduction, ce travail sur la langue, puisque à la fois les couleurs, les paysages, les magnolias, les crosses de fusil, tout apparaît sous les yeux et tout est extrêmement référencé, en tout cas fait référence à une forme de paysage et à une forme de violence. Et en même temps, il faut retrouver cette langue-là qui se fait un peu dans un souffle.
Oui, en écoutant là, cet extrait, je me rappelle avec bonheur toute la difficulté que j'ai pu avoir à traduire ce texte, qui est bref, parce que c'est extrêmement précis et en même temps, ce sont des termes très simples. Il faut voir combien la simplicité est difficile et combien le regard du travail est certainement de la part de l'auteur. Mais moi, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit par rapport justement à l'oralité, puisqu'effectivement, elle écrit une langue orale dans tout le registre de l'oralité. Et par rapport à la musique, je crois qu'il faut tout de même souligner le caractère incantatoire, parce que les Noirs sont des gens croyants, Toni Morrison elle-même était très religieuse. Et il faut souligner ce côté de la religion religarée. Hein, il y a un côté fédérateur du chant, il y a un côté solidaire de l'Église. Et le chant de Salomon, ben, ce n'est pas quand même un titre au hasard. Ce chant est beaucoup plus puissant qu'une chanson. C'est un texte biblique qui est des plus exquis. Hein, quand même, il faut aussi le déguster. Et moi, ce à quoi je voudrais revenir justement, dans la façon dont elle a de se mettre à la place des autres, parce que c'est un grand problème dans la littérature américaine, se mettre à la place des autres. Et elle a dénoncé cette lacune de savoir-faire chez ses prédécesseurs, quelque part. C'est que lorsqu'elle invoque, par exemple, la mémoire notamment du personnage, je pense, de Beloved, qui est Seth, elle a des souvenirs d'enfance et elle voit une nourrice, qui est une femme qui a été amputée, qui lui raconte en fait sa généalogie, qui essaie de lui transmettre des bribes fragiles de son origine. Et je me rappelle avoir été frappée par cette phrase qui dit « Ta mère, elle t'a gardée, elle ne t'a pas jetée avec les autres parce que l'homme, il a mis les bras autour d'elle ». Et je crois qu'il est extrêmement important de voir que les Noirs, par définition, avaient une langue extrêmement pauvre, pour la simple raison que le peu qu'on leur apprenait, c'était pour leur hurler des ordres dans des termes peu choisis.
Que la lecture était interdite.
Que la lecture était interdite, mais même jusque-là, quand on pense à ce que c'était au XIXe siècle, où il n'était même pas question de leur apprendre à lire au XVIIIe, et là je me dis, il a passé les bras autour d'elle. He put his arms around her. C'est extrêmement simple, c'est une phrase qui est extrêmement rythmée. Et là je me dis, voilà, vous avez une langue minimaliste qui vous décrit de la façon la plus épurée quelque part ce qui s'est passé. Et vous vous dites que cet enfant est une enfant de l'amour au sens le plus littéral du terme. Et quand vous lisez ça, vous vous dites finalement que là on n'a pas de regard noir, on n'a pas de regard blanc, on a une réalité d'un sentiment dans toute sa complétude. Et moi je me suis dit, en relisant récemment ce passage, mais c'est là qu'elle nous apprend à lire.
Alors justement, peut-être...
Elle nous apprend à lire, Toni Morrison. Elle nous apprend à lire en réutilisant toute l'oralité et toute la simplicité. Parce que ces gens, par définition, avaient très peu de vocabulaire. Voilà, dans une langue qui, a priori, est très neutre. Mais il y a une valeur incantatoire. Parce que transmettre une généalogie à une enfant, c'est le lui répéter. Parce que la répétition, c'est la seule possibilité d'assimilation. Et on le voyait aussi par rapport au chant.
Alors justement, pour revenir sur cette valeur incantatoire et sur cette incarnation, est-ce que c'est pas une spécificité, Claudine Reynaud, de Toni Morrison, que de faire incarner toute cette histoire, toutes ces émotions pour qu'elles soient retrouvées, pour qu'elles soient restituées, puisque l'esclavage a créé tout ça, la difficulté de pouvoir éprouver, puisqu'on éprouvait trop, est-ce que finalement, pour sortir de ce sentiment-là, il va falloir que tout soit incarné, y compris par les paysages, y compris par les objets? Ce passage-là de Home est très marquant parce que quand on entend Magnolia, quand on entend, on pense tout de suite à Strange Fruit, on pense tout de suite à ces paysages du Sud, on pense à cette violence-là des lynchages, alors même que rien n'est expliqué dans le texte.
Oui, l'incarnation, c'est-à-dire que, c'est ce qu'elle dit, elle dit par rapport aux récits d'esclaves, que les récits d'esclaves donc mettaient un voile, donc elle dit « mon devoir ». hein, et de lever le voile, hein, sur les choses qui n'ont pas été dites. Et alors à ce moment-là, elle va essayer donc de traduire dans des termes effectivement très très simples, très épurés. Elle dit je veux. Elle va aussi à l'étymologie des mots. C'est pas simplement un langage monosyllabique, on va dire excessivement anglo-saxon, mais c'est effectivement le sens du mot qui se trouve dans le son et dans la manière dont même quelqu'un va le prononcer.
Oui, mais ça va tout changer pour le lecteur, parce que elle va pas lui raconter l'histoire. Le lecteur passer par l'histoire, il va même passer à travers l'histoire.
Voilà. Et il va être obligé. Ce qu'elle dit, par exemple, au niveau de la langue, c'est que quelqu'un lui avait fait remarquer, et de toute façon c'était ce qu'elle voulait, qu'elle n'utilisait pas d'adjectif pour décrire, si vous voulez, comment quelqu'un parlait. Donc autrement dit, on va avoir, parce qu'il n'y a pas que du récit, il y a du dialogue, et donc dans les dialogues, on va avoir une mise en scène d'échanges qui, pour elle, sont des échanges qui sont compris dans la manière peut-être dont une grand-mère va dire « is » au lieu de... va employer un certain son.
Ah oui, Annie-Paul Miel de Prinsac, d'ailleurs, ça va même presque du côté de la dramaturgie, puisque parfois les dialogues, alors notamment dans son premier roman de Blue West Eye, les dialogues ne sont pas forcément cités, avec chaque personnage cité, donc on a le sentiment qu'il y a des chœurs de voix comme ça qui arrivent, qui inondent un peu comme si on était un enfant qui recevait comme ça tous ces récits qu'il n'arrivait pas totalement à identifier. Il y a un côté dramaturgique, il y a un côté théâtral.
Absolument, oui, on est. Enfin, je pense qu'elle a tous ces talents-là, et elle-même d'ailleurs est une excellente actrice. Enfin, elle sait lire, et elle sait mettre l'intonation, et elle est assez extraordinaire. Oui, il y a toutes ces histoires, et il y a ce désir de nettoyer la langue, hein, ce qu'elle va très vite. Pour moi, le c'est peut-être Hummer, qui a un don, qui est le roman le plus, alors je parlais de poésie, qui est le plus poétique. Il y a des passages absolument extraordinaires où vous entrez dans la nature aussi. Vous voyez l'Amérique de l'époque, et vous avez une sensualité de la langue, une utilisation des mots qui est assez extraordinaire dans ce roman-là, qui par ailleurs est très court et très, enfin il y a pas un mot de trop, hein, c'est Mozart, c'est elle a épuré, et vous avez,
alors d'autant plus qu'il y a le mythe pour soutenir aussi cette pensée-là forte, oui, et incantatoire, et il y a la force du mythe.
Il y a la force du mythe, elle utilise le mythe, elle utilise les histoires, d'ailleurs jusqu'à Stockholm où elle choisit d'être le griot, elle choisit de raconter une histoire, elle ne fait pas un discours officiel, ce qui aurait été pratiquement une trahison. Donc je crois qu'elle est constamment dans la transmission. Pour elle, raconter une histoire, c'est une façon de vivre et de se connaître et d'apprendre à se connaître. Il n'y a pas de littérature sans histoire. Et alors qu'on l'a cru à une époque dans notre pays, je crois qu'elle nous ramène au bon sens et au plaisir d'entendre des histoires, et même des histoires avec des personnages justement réels ou non, on s'en fiche, comme dirait Pilot. C'est l'essentiel, c'est que ça vous touche et que ça vous marque.
Alors justement, on s'en fiche, comme dirait Pilot, il faut peut-être revenir sur cette histoire aussi de fantômes. De fantômes, alors là, pareil, on peut dire que c'est la légende, le mythe, que ça appartient à des cultures africaines, mais on peut aussi dire que c'est chez Dickens et que ça existe aussi dans la littérature anglophone. Justement, Claudine Reynaud.
Oui.
Le fantôme.
Alors, le fantôme, bien sûr, ceux qui connaissent Beloved, il s'agit du fantôme de l'enfant qui a été tué, qui revient. Et elle dit, c'est vrai que...
Alors, parfois, l'enfant qui a été tué par sa mère,
par sa mère,
qu'elle donc, échappe à la condition d'esclave.
Oui, pour qu'elle échappe à la condition d'esclavage. Donc, effectivement, elle s'est dit une chose simple, c'est-à-dire que comment, de quel point de vue dois-je raconter cette histoire ? Elle s'est dit, mais c'est très simple, c'est la fille qui va demander des comptes à sa mère. Donc à ce moment-là, pourquoi la fille demande des comptes à sa mère, puisqu'elle a été tuée, il faut qu'elle revienne. Donc elle revient sous la forme de fantôme. Et bien sûr, c'est plus qu'un fantôme, hein, c'est Beloved, qui est la façon dont on s'adresse à la communauté, enfin que le prédicateur s'adresse à la communauté des fidèles. Hein. Mes bien chers frères, hein, dearest Beloved. Hein. Donc les fantômes, elle a beaucoup répété que en fait il n'y a pas de différence entre les vivants et les morts, entre les fantômes et les gens justement incarnés dans la culture que lui a transmis sa mère, sa grand-mère, et elle voit pas pourquoi elle serait pas fidèle à cette manière de voir le monde.
D'autant donc, plus que c'est un vivier immense.
Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le lecteur lui-même ne doit pas dire « Voilà, nous avons un exemple absolument flagrant et magnifique de réalisme magique. Mmh. » Puisque si c'est la réalité de la culture, on n'est pas dans de la magie.
Ou alors on renie la culture, on renie l'imprégnation politique de ces romans-là.
Alors, c'est pas tant l'imprégnation politique que de se dire « Il n'y a pas de différence. » Donc, le fantôme, si vous voulez, ce qu'elle nous dit, c'est que le fantôme, pour les personnages qu'elle met en scène et pour donc sa mère, sa grand-mère, etc., sont réels. Hein. Donc à ce moment-là, il faut rentrer dans ce monde-là pour se dire le fantôme est réel.
C'est l'idée de la transformation aussi littéraire, Christine Leferrière.
Oui, puis je pense qu'on peut même parler d'incarnation, parce que ce fantôme de la petite fille qui revient 20 ans après, elle est quand même de chair et d'os. Je pensais aussi au personnage du Zazou, comme ça on a une ombre flottante, un personnage qui apparaît deux fois dans Home. Quand le héros rentre, il voit dans un train un Zazou, en l'occurrence, voilà, habillé à la mode de l'époque, avec tout ce que ça peut avoir d'extravagant et de coloré. Qui est-il et qu'en fait-on ? Voilà, donc ça aussi c'est très intéressant parce qu'il a sa fonction. Sa fonction, vous pouvez la lui attribuer en effet, mais Toni Morrison aussi ne prend pas le lecteur par la main et c'est quand même un être en chair et en os.
Alors c'est peut-être une manière aussi, et on va finir là-dessus, d'élever les consciences, la conscience du lecteur, de l'amener dans un autre secteur de son imagination et de son psychisme, Claudine Reynaud.
Oui, parce que j'ai donné cet ouvrage, je pense qu'elle a dû m'en être reconnaissante, à lire aux cohortes, on va dire, d'étudiants de première année de l'Université de Montpellier. Donc, j'étais en train de réfléchir, ça fait 250 personnes multipliées par 9 ans, ont lu Home comme roman et introduction à la littérature américaine. Donc, ce Zazou, c'est un Zazou, mais dans l'histoire américaine, il s'agit d'émeutes raciale. Et donc c'est un personnage qui porte des vêtements d'ailleurs que les gens pourraient reconnaître s'ils visionnent le film de Malcolm X, puisque Malcolm X était un maquereau à un certain moment et était habillé de cette façon-là. Donc c'est une façon pour elle effectivement de jouer sur le fantôme, mais aussi d'introduire dans ce récit une référence très précise aux émeutes raciales qui ont eu lieu.
Merci beaucoup, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais il faut s'arrêter là. Merci à toutes les trois d'être venues parler de l'œuvre de Toni Morrison. Quelques titres de livres pour ceux qui souhaitent découvrir cette œuvre, L'œil le plus bleu, bien sûr, La chanson de Salomon, Beloved et plus récemment Home ou encore Délivrance. Thank you. Clair de lune pour piano, c'est Debussy qu'on entendait interpréter par Kun Wu Pek, qui sera en concert le 15 août lors du Festival international de musique de Dinard. Il y jouera aussi les Nocturnes de Frédéric Chopin. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez. C'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité le comédien et metteur en scène Brontis Jodorowsky. Le gorille est campé devant son public, il donne une conférence. Pas n'importe quel gorille, celui de Kafka, celui que Kafka a capturé dans l'une de ses nouvelles. Un gorille monté très haut, pour ne pas dire parvenu, ayant éprouvé lui-même toutes les conditions. Le voilà qui revient en philosophe sous les traits de Brontis Jodorowsky, interrogeant le public sur son statut d'homme. Brontis Jodorowsky est aujourd'hui parmi nous, il est l'invité du portrait de la Grande Table d'été.
Bonjour.
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 Alors le gorille rentre dans le studio, il pousse les casques.
Voilà, il se fait sa place.
Il se fait sa place. Pourquoi cette idée de cette nouvelle de Kafka, qui est peut-être pas l'une des plus connues, qui est un texte d'ailleurs que vous avez dû adapter, reprendre, un peu moderniser?
Oui, alors l'idée est de mon père, Alexandre Jodorowsky, qui avait déjà eu envie de mettre en scène ce spectacle avec un metteur en scène, avec un acteur mexicain dans les années 70, je crois. Et ça s'était mal passé, en fait, avec lui. Et il lui avait laissé le spectacle avec une sensation de quelque chose d'inachevé. Des années plus tard, on a tous les deux fait des choses ensemble. On s'est retrouvés artistiquement, moi en tant qu'acteur, lui en tant que réalisateur, metteur en scène.
À travers plusieurs films.
On a fait deux pièces de théâtre ensemble, Opéra Panique et Un rêve sans fin. Le rêve sans fin, on l'a joué en Italie et au Mexique. Et quand on a fini Le rêve sans fin, avant de faire La danse de la réalité au cinéma, il m'a dit, j'ai enfin l'acteur idéal parfait pour faire le gorille. Et là-dessus, moi, je lui dis, bah, quoi, le gorille, la nouvelle de Kafka, je l'ai lu, je vois pas trop ce qu'on peut en faire. Et puis moi, je fais pas du théâtre pour être tout seul, parce que c'est un seul en scène. J'ai fait beaucoup de travail de troupe. J'étais au Théâtre du Soleil pendant 7 ans. Avant, j'ai travaillé avec des troupes que j'avais fait moi-même. Et donc, c'était une espèce de défi de se retrouver seul face à un public. Et en fait, justement, là, je me suis rendu compte qu'on n'était pas seul dans un monologue, mais on était toujours dans un dialogue avec le public.
Alors ça dépend, surtout dans le vôtre, parce que le seul en scène, le public devient le public du gorille et il devient le public des conférenciers. Il faut expliquer peut-être.
Absolument.
Le dispositif.
C'est donc ce gorille qui se retrouve capturé dans la forêt africaine, il se retrouve dans une case dans un bateau, il va être exposé aux eaux, et il voit que sur le bateau, les marins se déplacent librement, les hommes se déplacent sans entrave, et donc lui décide de cesser d'être un singe pour pouvoir trouver une issue à sa situation. Donc, bon, il y a tout un process, c'est ce que raconte la pièce. Et à un moment donné, il apprend à parler, et il acquiert le statut d'humain, puisque apprenant à parler, il apprend à penser. Et il reçoit un prix de cette académie. Et donc, il vient recevoir ce prix. Et c'est l'anecdote de la pièce, c'est son discours de réception de ce prix, comme une réception d'un prix Nobel, devant une académie. Alors, oui, on joue un peu que les spectateurs sont les membres de l'académie qui sont là pour écouter son speech et raconter sa vie, en fait.
On va en écouter un extrait.
Passé un certain temps, un matin, après avoir fait la queue pendant des heures interminables devant la porte d'un bureau, je reçus un papier officiel qui établissait mon statut légal de homme. Au sortir de ce bureau, je suis retourné parcourir la ville, agitant mon petit bout de papier. C'est un des nombreux diplômes que j'obtins et acheté aussi tout au long de ma carrière. D'un trait de plume, on m'avait donné une âme. Et plaf, 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 je battais des pieds sur l'asphalte, fixant mes concitoyens du regard, en plein droit d'abuser d'eux comme eux.
Brontis Jodorowsky, on entend que dans le jeu, alors à la fois, le gorille n'est jamais très loin et en même temps, il nous ressemble tellement. C'est toute l'idée de ce miroir qu'est la nouvelle et qu'est le seul en scène.
Oui, pour moi, le défi en tant qu'acteur, là où c'était vraiment intéressant, c'est d'être toujours entre les deux. C'est-à-dire ne jamais cesser d'être le gorille et jamais non plus cesser d'être l'humain. C'est-à-dire vraiment de jouer sur cette frontière. Donc c'est un spectacle qui implique énormément le corps, mais qui en même temps implique une parole très claire, très limpide, très articulée.
Alors le corps, peut-être vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez travaillé. On l'entend même dans des intonations, même dans des respirations comme ça, un peu animales qui arrivent au milieu, dans une démarche bien sûr.
Comment j'ai travaillé? Alors en fait, ce spectacle, l'aboutissement de comme chaque rôle, comme dans des spectacles, c'est toujours l'enfant des rôles précédents. C'est vraiment quelque chose qui est le résultat du travail que j'ai fait en tant qu'acteur depuis mes débuts d'acteur de théâtre. J'ai commencé au théâtre en travaillant avec Richard Chislack, qui à son époque, dans les années 60, était l'acteur emblématique du théâtre laboratoire de Jerzy Grotowski. Et donc ma première formation théâtrale, ça a été avec lui pendant un an. On n'a pas dit un mot, on a fait que du corps, que du corps, que du corps, que travailler la... ce qu'on appelle un peu vulgairement maintenant la mémoire du corps, mais au-delà de la mémoire du corps, la précision du corps. Donc c'est vraiment, je pense que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Plus tard, quand j'étais au Théâtre du Soleil, qui est aussi un théâtre du corps complètement inspiré de l'Asie, des techniques de jeu asiatiques, qui sont aussi des techniques de précision, qui sont en fait une façon d'accueillir le personnage. C'est-à-dire que le corps de l'acteur, il doit se préparer et se mettre à disposition de ce qui peut advenir au moment du jeu.
Alors là, par exemple, Vendée Jodorowsky, le gorille qui porte son discours comme le ferait un homme devant une salle, il a des rebonds vifs d'un coup. Il a une manière de rappeler sa condition, son énergie, mais aussi sa personnalité.
Oui, c'est vrai.
Il rebondit sur scène,
Il rebondit sur scène. Après, quand on dit ça, on a l'impression que c'était vraiment... le spectacle, ce n'est pas une suite de singeries. Justement, c'est ça ce qu'on a vraiment voulu éviter. Toute cette forme, toute cette incarnation, cet aspect corporel est tout de même au service du fond du spectacle, de ce que le spectacle parle. Et ce dont le spectacle parle principalement, c'est du renoncement à soi-même pour être accepté par les autres, pour pouvoir s'intégrer. Et ça, c'est une chose que on partage tous humainement. Dès l'enfance, on adopte un certain nombre de comportements pour avoir l'approbation de nos parents, leur amour, leur affection, leur attention. Certains parents donnent tellement peu d'attention à leurs enfants que les enfants sont insupportables parce que la seule relation qu'ils arrivent à établir avec leurs parents, c'est une gifle ou c'est une engueulade. Parce que là, à ce moment-là, on les regarde, on fait attention à eux. Alors donc, le sujet, c'est celui-là. C'est la douleur de renoncer à ce que l'on est pour être accepté par les autres.
Alors il y a tout ce parcours-là qui passe à travers plusieurs discours philosophiques. Il y a d'abord ce qui distinguerait l'homme de l'animal, donc ce qui serait le propre de l'homme, avec un discours très fort sur la nature, finalement. Le discours sur la nature changeant, puisque le gorille, au final, regrette cette nature et cette liberté.
C'est-à-dire qu'on ne cesse jamais d'être qui on est. Quelque part, le renoncement à soi est une douleur permanente. Donc, qu'elle soit quand on doit s'intégrer dans une société parce qu'on vient d'un autre pays, qu'on soit dans une famille où notre type de sexualité ne correspond pas à ce qui est à la normalité, à la norme. Donc, forcément, il a tout le temps cette nostalgie. Mais il y a un moment donné aussi dans le spectacle, on peut le spoiler un peu, c'est pas très grave, mais parce que c'est quand même aussi une chose importante, c'est que il y a un moment où au-delà de ce discours, au-delà de est-ce que je suis un singe, est-ce que c'est la nature, est-ce que je suis un homme, la civilisation telle qu'elle est, ce qu'on croit qu'est la liberté aujourd'hui, etc. À un moment donné, il va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il n'est ni singe, ni homme, ni animal, il est une conscience. Et donc je pense que ce que le spectacle essaye de dire, c'est de valoriser, c'est le fait que nos différences ne sont que des points de vue, ne sont que des choses relatives, ne sont que des formes de cage. Parce que même s'il était qu'un singe, il serait enfermé du coup, puisqu'il a acquis la parole et la pensée, il serait enfermé dans sa nature, ou alors il est enfermé dans ce... dans son humanité d'adoption. Alors qu'en fait, non.
Alors, ce qui est aussi utilisé par Kafka, et ce que vous réutilisez dans votre jeu, Vendée Jodorowsky, c'est ce poste d'observation qui est tout simplement l'être extérieur. Donc, c'est le gorille, comme ça pourrait être n'importe quel observateur, l'étranger, celui qui est extérieur à ce qui se passe et qui va observer les hommes et leurs vices
C'est en quelque sorte, ça a toujours été un peu la fonction du théâtre, quand vous jouez, ben j'ai joué Orgon dans Tartuffe, à travers ce personnage, Molière, le personnage que d'ailleurs Molière jouait lui-même, il porte une vision sur comment, une critique sur sa société qui se fait complètement embarquer par une forme d'intégrisme, par les dévots, etc. Là, c'est un peu pareil, c'est la fonction du théâtre. Le théâtre est toujours une forme de miroir. Pas seulement, parce qu'il n'est pas que ça, mais il est au départ une forme de miroir. Donc évidemment, quand le public vient voir ça et qu'un acteur se manifeste et qu'un poète, qu'un texte écrit à la base par Kafka, puis complété par Alexandre Jodorowsky, puis retravaillé dans sa version française techniquement par moi, c'est forcément c'est tendre un miroir. Mais c'est pas tendre un miroir accusateur, ça on s'est dit, on n'est pas là pour donner un coup de massue aux spectateurs et leur dire, dis donc, ta vie elle est horrible, elle est absurde. Sinon pour dire oui, la vie, notre vie, la mienne aussi qui suis sur scène est absurde, n'a pas de sens, mais il y a une possibilité d'issue, il y a une possibilité d'ailleurs.
Sauf qu'à travers ce regard, on redécouvre aussi l'humanité avec, disons, ses travers. Oui, c'est quand même un poste humoristique délicieux.
Mais avec amusement. Amusement, parce que moi je crois vraiment qu'une des portes de la prise de conscience, c'est le rire.
Alors dans les postes d'amusement, il y a justement une relecture. Alors là, c'est un travail d'écriture qui a été fait aussi d'adaptation pour que finalement la condition de l'homme moderne issu du gorille, ce serait finalement d'arriver à jouer en bourse, à gagner de l'argent. C'est ce monde matérialiste. Mmh. Ça, ce gorille-là, il prend sa place non seulement il monte l'échelle, grimpe l'échelle sociale. Il y a une ascension sociale du gorille qui est liée à son ascension économique.
Absolument, absolument. C'est vous savez, on a créé ce spectacle dans sa version en italien en 2008. Donc c'est vraiment au moment de la crise mondiale. Et au départ, on pensait pas à ça. Mais au fur et à mesure que j'ai joué tout au long de ces années, jusqu'à cette reprise à Paris, à partir du 4 septembre au Lucernaire, j'ai joué en espagnol, en Argentine, au Chili. J'ai fait quelques représentations en anglais pour un festival. Donc j'ai joué deux fois au festival d'Avignon Off. Mais au fur et à mesure que j'ai continué à explorer, à me plonger dans ce spectacle, à le partager avec le public, il est devenu de plus en plus, de coller de plus en plus à la réalité. Et le monde d'aujourd'hui, s'il y a une chose qui le dévore, qui nous met nous tous en danger de mort, c'est la cupidité. C'est l'appât du gain, c'est tout ça. Et tout ça, ça se manifeste dans une société dont l'économie maintenant est financière. La financiarisation de l'économie.
C'est un gorille capitaliste, même post-capitaliste.
C'est un gorille. Non, c'est un gorille qui suit l'exemple. C'est-à-dire, il a appris. Et à un moment donné, il se dit, si je veux sortir de mon enfermement, de cette caisse dans laquelle on m'a mis et dans cette cage, il faut que je devienne comme eux. Donc, je vais apprendre. Et donc, il va faire ce qu'on doit faire quand on apprend, c'est-à-dire, on observe. Et on imite. Pourquoi est-ce que nous marchons sur nos deux jambes? Parce que nous avons vu nos parents se tenir debout et marcher sur leurs deux jambes. Peut-être qu'on le ferait sans ça, on peut pas savoir, mais il est fort probable qu'on mettrait beaucoup plus longtemps à réaliser qu'on peut le faire et voilà, on serait toujours à quatre pattes. Un enfant, quand il vient de naître, il est en devenir toujours. C'est la particularité de l'être humain. Un bébé, si vous le mettez deux semaines après sa naissance dans une chambre totalement obscure, il deviendra aveugle. Parce que son nerf optique n'aura pas été stimulé. Bon, c'est théorique, hein, parce qu'on le fait pas, mais on le sait théoriquement. Donc, c'est par l'observation de la société humaine, de ce qu'il voit, aussi de ceux qui l'ont vu. Parce que, évidemment, une personne évoluée, un Bouddha ou un Gandhi, etc., n'aurait pas été le capturé. Moi, vous, on n'aurait pas été capturé, ce pauvre singe.
Je sais pas si nous sommes des Bouddhas comparables.
C'est pour ça que je redescends à nous. Mais nous, on l'aurait pas fait. Donc, évidemment, il observe ceux qui peuvent prendre une richesse d'ailleurs, pour l'emmener chez eux, pour l'admirer, pour s'emparer.
Et en même temps, il y a le discours et la langue que l'on retrouve de Kafka, dont vous avez conservé la majorité du texte. Comment est-ce que ça a été réécrit?
C'est 60% Kafka, 40% Jodorowsky.
D'accord. Et donc ce travail, c'est aussi un travail sur l'évolution. Alors l'évolution telle qu'on la connaît chez Darwin, on passe du singe à l'homme, mais c'est aussi toute une réflexion qui fait justement un système d'aller-retour, puisque on va observer finalement énormément de points communs dans l'organisation de la société des singes et de celle des hommes. Et là aussi, l'humour va être utilisé pour parler, par exemple, des rapports amoureux qui en fait n'en sont pas.
Oui, oui, oui.
Bronte Jodorowsky.
Il se demande ça, lui. À un moment donné, il demande au public quelle est cette chose étrange que vous, les humains, appelez amour. Et là, j'attends un petit peu. et personne ne me répond. Et donc le spectacle continue. Ouais, oui, bah effectivement, ouais. Oui. Il y a un moment donné où il dit oui. En fait, c'est-à-dire cette métamorphose à l'envers. Kafka est très connu pour la métamorphose, un être humain qui devient un cancrelat. Là, c'est un singe qui devient un humain. Voilà. Donc, mais en même temps, par son discours, c'est-à-dire le fait qu'il doit revivre tout ce parcours, tout ce qui l'a emmené là, en fait, lui-même redevient en quelque sorte singe. Donc, vous avez raison. Il y a cet aller-retour permanent entre
l'humanité, l'animalité.
L'humanité, l'animalité.
L'organisation des structures aussi.
L'abandon et l'ambition. Et puis surtout, tout ça a cravaché par l'instinct de survie.
Et la notion de liberté.
Et la notion de liberté qui, pour ce singe, est vraiment très relative. Il a un point de vue, où, pareil, un point de vue parce qu'il observe et il dit... Cette liberté était vraiment relative. Alors, je ne veux pas citer trop de passages du texte, mais bon, il dit la liberté chez les hommes, soit dit en passant, est très relative, quoi, parce que les chimères qu'elle engendre ne mènent à rien, en fait. En réalité, ils voient que les gens sont exploités, on voit qu'à la moindre protestation, ils sont roués de coups, ils voient couler leur sang humain, ils voient que tout ça, que tous les gens en général sont des gens en guenilles, qui sont la base d'une pyramide du pouvoir, au strate sur strate. Les hommes ne font que s'exploiter, se torturer les uns les autres.
Alors il y a aussi cette notion d'individuel et de collectif qui est beaucoup travaillée, puisqu'elle est très différente dans le monde animal et dans le monde humain. Il y a des focus sur des points particuliers de la personnalité humaine, par exemple la capacité à se concentrer, la capacité à choisir un objet particulier. Il y a toute cette idée sur laquelle un homme, au bout d'une demi-heure, s'ennuie, a besoin de se divertir.
Ah oui, parce que lui, il se rappelle de quand il était un animal, évidemment. Lui, devant un fruit sur le point de tomber, ou un rival qui va l'attaquer, voilà, ça c'est dans le texte, il dit quand il y a une femelle dans l'attente d'une femelle capricieuse.
Il peut rester concentré des heures.
Il peut rester concentré des heures. Et maintenant que je suis devenu un citoyen ordinaire, je vois à peine, j'entends mal, et j'arrive pas à fixer mon attention sur quoi que ce soit pour plus d'une demi-heure. Il y a des études qui le démontrent maintenant. Voilà, si on fonçait des portes ouvertes, maintenant on le sait tous qu'au-delà de 20 minutes.
Je crois que c'est plutôt deux,
tout de suite
en fait.
À manger. Non, mais sur un film ou sur une pièce, on pense à manger ou à faire une autre activité réjouissante.
Alors là aussi, on inverse, c'est-à-dire que c'est l'animal qui est doté, lui, de capacité d'adaptation dans la nature, qui a sa place dans la nature, et l'homme finalement, avec des capacités assez pauvres, qui passe d'une chose à l'autre.
C'est-à-dire que l'homme oublie sa nature. C'est toute une discussion, la nature, l'homme, la civilisation, etc. Mais plus nous allons en avant, si je peux dire en avant, moins nous sommes connectés avec la nature. Et d'ailleurs, en ce moment, on a avec toute la conscience écologique, planétaire, dans les pays développés qui en ont le luxe, on a un retour de ça. On commence à se dire, oulala, mais en fait, la nature et moi, ça fait un, parce que sans elle, je suis rien. Je n'existe pas, je disparais. Mais on est à peine en train de revenir à ça. Enfin, la plupart d'entre nous, malheureusement, ceux qui sont aux commandes, ceux qui sont, comme on dit, en responsabilité, et qui n'agissent pas de façon responsable, ne le sont pas.
Cette question politique de la nature, c'est une relecture de Kafka. Peut-être je vous proposer d'écouter un deuxième extrait.
Qui êtes-vous pour me récompenser? Qui vous a dit qu'appartenir à votre institution signifiait avoir triomphé? Non, je pense au contraire... Au lieu de m'émouvoir pour ce prix, là maintenant, avec toute mon épouvantable et aberrante vie étalée devant moi, je dois plutôt vous mépriser. Oui, vous mépriser. Car il y a une seule chose de claire que je puisse tirer de toute mon odyssée. Vivre ainsi n'a aucun sens. C'est avant. Je ne me posais pas de questions. Manger un fruit sylvestre. C'était manger un fruit sylvestre. Humer l'herbe. C'était humer l'herbe! Moi, je n'étais qu'un morceau de ciel. Qu'un fragment de terre. Tandis qu'aujourd'hui, transformé en île, me cognant contre ces autres îles que vous êtes. dans l'angoisse de cette atroce solitude. Je n'ai plus de réponse à rien.
Alors on entend le gorille qui s'interroge justement sur cet idéal naturel perdu qu'il ne pourra pas retrouver parce qu'une fois qu'on a changé, on a changé. C'est ça l'idée, Brontis Jodorowsky, il n'y a pas vraiment de retour en arrière parce que ce changement est un changement intérieur que fait le gorille.
Absolument, mais c'était, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié au point qu'il s'est perdu lui-même. Donc en faisant tout ce parcours avec son discours, bah, il se rappelle de toutes ses aventures, de tout ça, de comment il est devenu, comment il a appris à parler, comment il est devenu vedette de music hall, comment après il est devenu impresario, comment après il est devenu chef d'entreprise, richissime, etc. Mais tout ça au prix de la disparition, de la perte de contact avec qui il est. Mais encore une fois, après ça, lui, très clairement, quand il ne peut pas aller en arrière, il se dit « bon, bah, alors il ne me reste plus qu'à aller de l'avant ». Parce que parfois, quand on arrive à des constats terrifiants comme celui-là, et qu'on peut transposer à plein d'autres situations, on se dit bon ben voilà, c'est foutu, on est foutu. Non, si on peut pas revenir en arrière, on peut aller de l'avant, mais dans un ailleurs. C'est-à-dire sortir du schéma dans lequel on est en train de penser. Comme je disais tout à l'heure, pardon, sortir de l'idée est-ce que je suis un animal, est-ce que je suis un humain, non, je suis autre chose.
C'est le domaine du vivant qui leur est commun. Alors je me demandais justement comment est-ce que vous aviez fait ce travail de mise en scène, de mise en dramaturgie aussi d'une nouvelle, d'un texte littéraire, un seul en scène qui porte tout. Et en même temps, il y a une alternance entre un travail de voix qui est fort quand même. C'est un texte bavard justement, ça parle beaucoup.
C'est un spectacle de conférence.
Et en même temps, le rôle important qui est donné à la musique, à la gestuelle.
Le théâtre est toujours musical. À l'origine, la musique et le théâtre n'étaient pas séparés. Dans les origines du théâtre, qui est d'origine asiatique, parce que le théâtre vient d'Asie, les acteurs ne parlent même pas. C'est même pas eux qui parlent. Ce sont des danseurs. Ils bougent. Ils incarnent. Donc, le phénomène théâtral est un phénomène d'ensemble. Il y a des musiciens qui jouent. Il y a parfois quelqu'un qui chante, qui récite, qui est le récitant, et puis le corps de l'acteur. En Occident, avec la modernité, le passage du temps, l'évolution du théâtre, tout ça est entré dans un même corps. C'est le corps qui parle, qui pense, qui sent et qui agit. Peut-être que on a un peu perdu la musicalité, le rapport avec la musique. Et ça, moi, j'ai énormément appris là-dessus en étant au Théâtre du Soleil, parce que le Théâtre du Soleil est très inspiré du théâtre asiatique. Et quand on travaillait avec Ariane Mouchkine et avec Jean-Jacques Lemaître, qui est le musicien de la troupe, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur qu'est-ce que c'est que le rapport de l'acteur à la musique.
Et d'une musique live, d'une musique qui se fait sur scène en même temps que le théâtre.
Il y a la musique qui se fait sur scène, il y a la musique enregistrée, mais c'est le même rapport. Et puis jusqu'au moment aussi à comprendre, mais ça en France on le comprend mieux avec la tragédie, c'est qu'il y a une musicalité de la langue. La langue elle-même est musique, la langue elle-même est rythme. Et parce que tout dans le corps est rythme, le battement du cœur, la respiration, le souffle, etc. Donc comment on a fait très pratiquement, comme ça, pour raconter l'anecdote, on s'est retrouvé avec mon metteur en scène de père, Alejandro, on s'est retrouvé chez lui dans son salon. On a répété 3 heures par jour pendant 10 jours. Pendant les 3 premiers jours, il m'a indiqué une gestuelle, certaines gestuelles très précises, certaines pantomimes qu'il y a dans le spectacle, justement, qui sont comme des intervalles avec la musique. Et pour moi, il s'est agi de trouver le plus vite possible le mode, c'est-à-dire c'est un peu encore musicalement, c'est-à-dire comment, sur quel mode se joue ce spectacle. Il y a le mode de la comédie, le mode de la tragédie, le mode tout ça. Bon, c'est mon vocabulaire. Et une fois que j'ai trouvé le mode, et je me suis dit il faut trouver ce juste équilibre. À partir de là, j'ai beaucoup improvisé. Mon père a fait la scénographie et puis juste de temps en temps, il m'a donné quelques indications, ça non, là par là.
Donc il avait découpé au départ, en même temps qu'il avait travaillé le texte, il avait découpé
l'histoire du texte,
séquencé le texte.
L'histoire du texte, c'est presque tout le texte de Kafka, presque une partie qui n'avait certaines choses qu'il a enlevées. Et puis il a croisé. La première partie est beaucoup plus proche du texte de Kafka, la deuxième partie est beaucoup beaucoup plus de son écriture à lui.
Donc il s'est mélangé dans cette langue.
Et après, voilà, on l'a croisé. Alors, pour la version française, moi, j'ai repris le texte, j'ai fait un travail technique dessus, parce que un animal, dans ses mouvements, n'est jamais essoufflé, hein. Vous voyez courir un guépard, vous le voyez après reprendre son souffle, mais sur le moment, il est pas essoufflé, il est souple, il est beau, etc. Donc, je voulais pas avoir dans tout ce discours l'air essoufflé, c'est très corporel, etc. Je suis un homme de mon âge. Donc il s'agit pour moi de trouver dans la version française des façons qui permettent que je puisse respirer sans que ça se voit dans le texte.
Donc il y a des sortes de séquences, petites parenthèses.
C'est des choses très simples, c'est-à-dire c'est finir mes phrases avec des voyelles, comme ça je ne perds pas du temps à ouvrir la bouche après une consonne pour pouvoir reprendre mon souffle, c'est des tas de choses comme ça. Et puis j'ai aussi dans le vocabulaire, par exemple, j'ai utilisé le mot arboré, par exemple, voilà, qui pour moi arboré fait dans sa sonorité rappelle l'arbre, parce qu'il y a l'arbre, l'arborescence, etc. Pour arborer un titre, voilà. Donc j'ai fait beaucoup ça pour bien combiner, pour que le liant soit un vocabulaire qui soit toujours près en fait du vocabulaire de la nature.
Et donc ça, c'est un travail que vous avez fait sur scène, au plateau?
Non, ça c'est un travail que j'ai fait quand il s'agit de... Parce qu'en fait, on a fait en italien, il y a eu un traducteur qui a fait à partir du texte que mon père avait fait dès le départ. Et quand il s'est agi de le faire en français, donc j'ai dû traduire moi à nouveau à partir de l'espagnol. Et là, on en a discuté, je lui ai proposé de faire des petits changements sur la fin. Et puis voilà, j'ai fait mon travail de traducteur-adaptateur, mais bon voilà, c'est pour ça que c'est un...
C'est en le disant que vous l'adaptez à votre propre...
Non, je me suis vraiment assis à ma table et puis j'ai travaillé le texte. Après, j'ai fait d'autres traductions pour lui et pour d'autres personnes, de l'espagnol au français. C'est un exercice magnifique parce que... Mais il faut toujours le faire à voix haute. C'est-à-dire, on voit quand une traduction a été faite sans être parlée, elle ne fonctionne pas de la même façon.
Merci Brontis Jodorowsky d'être venu aujourd'hui.
Un plaisir.
Je rappelle que votre spectacle Seul en scène, Le Gorille, va être pris au Lucernaire à la rentrée à partir du 4 septembre et ce jusqu'au 3 novembre prochain. Quant à nous, je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été consacrée à l'exposition du Panthéon L'histoire silencieuse des sourds. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alexandra Brouillet, Jeanne Copé, Lou Lejoli, Lou Quevauvilliers et Julien Rosa. À la réalisation, Alexandra Longuet, à la technique, Inès de Bruyne. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr.